ben, remercier les organisateurs pour
cette
organisation et puis le fait de m'avoir invité. Cette rencontre, puisque j'ai commencé à travailler sur ce thème il y a 20 ans. Et il y a 20 ans, les quelques chercheurs qui travaillaient sur ce thème, on était très seuls et on avait tout le monde contre nous, je dirais un peu, parce que tout le monde était pour, à cette époque-là, la privatisation. Donc, tout évolue et je m'en réjouis et je suis très heureuse d'être parmi vous. Et encore merci aux organisateurs qui ont fait un excellent travail, je crois. Je vais présenter vite fait le plan, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, on a 10 minutes chacun. Après une brève introduction, en fait, je vais aborder trois points principaux. Un rappel historique pour bien rappeler, ça a été dit ce matin, plusieurs personnes ont cité le rôle de l'État. On ne peut pas parler de marchandisation et de privatisation sans parler de l'État. Donc il faut voir comment a évolué le rôle de l'État, c'est ce que je vais rappeler. Je vais rappeler aussi c'est assez récent en fait que l'État africain se soit désengagé de l'éducation. Il faut le rappeler, ce qui montre que ce n'est pas inévitable. Ensuite, je vais parler de ce désengagement et quelles sont les conséquences en termes de transformation des inégalités scolaires. Et en dernier point, la remise en cause du droit à l'éducation, qui me paraît l'une des conséquences du désengagement de l'État et de l'accroissement à la fois de la privatisation de l'enseignement et de la marchandisation de l'éducation. Voilà le plan. Alors, tout d'abord, je voulais revenir sur les termes marchandisation et privatisation. Marchandisation, c'est donc le fait de transformer l'éducation qui est normalement un bien public, c'est ce qu'on disait il y a 20 ans, ça aussi on ne l'entendait plus, et j'étais très contente, on l'a entendu ce matin, on en reparle de bien public mondial, et ça je pense que c'est important. L'éducation, ce n'est pas une marchandise comme une autre, c'est un bien public, il faut le redire, mais c'est vrai que je l'entendais plus souvent, et j'étais heureuse de l'entendre ce matin. Et donc on transforme ce bien public en bien marchand. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire que normalement, un bien marchand, il doit être source de profit, mais pas seulement. Il faut qu'il réponde aux lois du marché. C'est-à-dire qu'il doit être en concurrence, il doit soit être en situation de monopole ou pas, avoir une diversité des produits offerts, et puis choisir ses cibles qui sont des consommateurs. Quand on est dans un système de marché, on n'est pas face à des clients ou à des usagers, comme dans le service public, on est face à des consommateurs. Voilà, donc ça, il faut le rappeler. Peut-être qu'on aura le temps de rediscuter des incidences de la marchandisation. On parle souvent de sources de profit, mais ce n'est pas uniquement cela. Et il faut que ces entreprises privées, puisque c'est de ça qu'il s'agit, répondent à la régulation des activités marchandes, c'est-à-dire qu'elles ont des stratégies fiscales que n'a pas, par exemple, l'enseignement public. Alors, j'enchaîne. Alors, le passage, en fait, d'une éducation qu'on définirait comme un bien public à un bien marchand entraîne la mise en cause des principes de gratuité, ça c'est, tout le monde le comprend, si c'est privé c'est payant, et d'égalité. Alors on reviendra après sur la notion d'égalité. La privatisation de l'éducation désigne aussi l'intervention croissante d'acteurs privés. Ce qui signifie, par conséquence, le désengagement des autorités publiques, qu'elles soient nationales. Là, ce matin, on a parlé beaucoup des États et c'est important, mais il y a aussi toutes les communes ou les départements ou les districts. Donc, tout ce qui est autorité publique déconcentrée ou décentralisée. Il ne faut pas oublier maintenant, avec le processus de décentralisation, le rôle public des structures décentralisées, surtout quand elles ont une légitimité politique et qu'elles ont été, par exemple, un maire qui est élu, il a une vraie légitimité en termes de politique publique d'éducation. Voilà. Alors, cette privatisation, il faut faire très attention aussi, elle peut relever à la fois du système marchand et du système non marchand. C'est-à-dire que système marchand, il y a source de profit, Système non marchand, ça peut être des écoles, comme j'ai noté, un phénomène qu'on a bien connu dans les années 90 en Afrique, des écoles communautaires, des écoles de parents, des écoles de village, qui sont financées par les communautés. Donc là, les communautés n'ont aucun but de profit, c'est quand même privatisé, et ça a quand même l'inconvénient, on le verra après, de la privatisation. J'en parlerai dans la deuxième partie. Enfin, ça a été un peu dit ce matin déjà, la marchandisation de l'éducation peut prendre des formes multiples. C'est-à-dire, ça peut être la création d'une école privée, ça peut être des cours de soutien, des cours de supplémentaires, ça peut être parfois même à l'intérieur du public où on fait rentrer des services payants. Voilà. Donc, il faut être très vigilant puisque ça prend des formes très diverses. Et pour finir, quelque chose qu'on commence seulement à parler maintenant au niveau de l'éducation dans le monde, c'est le problème des formes délictueuses, c'est-à-dire achat de notes, achat de diplômes, achat de place dans une école. Et ça, c'est aussi inclus dans, je dirais, la marchandisation, sauf que c'est délictueux, c'est-à-dire interdit, c'est évidemment. Et ça peut toucher aussi, évidemment, les services publics. Mais ça fait partie d'un processus où on croit qu'on peut tout acheter, y compris l'éducation, y compris un diplôme. Et on sait très bien qu'il y a des pays qui sont très atteints par l'achat des diplômes. Certains pays, par exemple, leurs diplômes ne sont plus reconnus parce qu'on sait qu'une partie d'entre eux ont été achetés. Voilà. Alors, j'aborde mon point de l'historique. Ce qu'il faut rappeler, c'est que tout d'abord, au moment des indépendances, tous les États africains voulaient investir dans l'éducation et étaient très, avaient des politiques publiques très ambitieuses, on va dire. Hein. Et la part du privé était très faible. C'est dû aussi pour les États francophones à l'histoire scolaire des systèmes sous colonies françaises. Pour les colonies belges, c'était différent. Les privés étaient beaucoup plus développés. Donc ça, c'est pour rappeler qu'au début, en fait, il y avait très peu de privés dans du point de vue de l'histoire déjà coloniale scolaire et après, au moment des indépendances. Donc, toutes les 20 premières années des indépendances, 1960-1980, on a un très fort investissement des États, des politiques publiques, bon, on peut en faire la critique, mais qui étaient très ambitieuses, c'est-à-dire tous les pays savaient que pour construire leur indépendance, pour construire leur nation, ils avaient besoin d'une éducation forte, aussi bien pour construire la citoyenneté qu'ils étaient en train de construire, que pour construire l'économie. Et certains pays, comme le Congo, le Burkina Faso ou d'autres, ont avaient carrément nationalisé une partie ou tout de leur système scolaire. Donc ça, c'est bon à rappeler parce qu'on vit une période de forte privatisation. On croit que c'est inéluctable, que ça a toujours eu lieu. C'est faux. On a bien des périodes très marquées, d'abord avec une priorité au public. Et après, on y vient. C'est les années 80, les années des PASS. Je vais peut-être aller un petit peu plus vite. Tout le monde se souvient des PASS, des programmes d'ajustement structurel qui ont été catastrophiques en Afrique, aussi bien dans tous les secteurs sociaux comme la santé et l'éducation. Pour l'éducation, ça a correspondu à des baisses de taux de scolarisation dans des pays de façon très importante. Et avec un recul des États. Oh oui, alors là, j'accélère. Hein. ça, c'est pour donc rappeler, je vais finir la partie historique. En fait, à ce moment-là, dans les années 90, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les États africains, avec les PASS, ne peuvent plus financer leur système scolaire. Donc, on a l'aide internationale qui va jouer aussi un rôle négatif, ce sera un peu la conclusion que je voulais faire, sur la promotion du privé. Hein. Voilà. Parce que, en fait, pour relancer l'éducation, deux types d'actions ont été promues. Soit le développement des écoles privées qui étaient censées soulager les États, soit le développement des écoles financées par les parents, qui là aussi devaient remplacer la défaillance des États. Donc c'est les deux stratégies qui ont été mises en place et qui ont permis de développer très rapidement l'enseignement privé. Voilà, donc je l'ai dit, donc le désengagement de l'État, qu'est-ce qu'on constate dans les années 90-2000 jusqu'à nos jours, c'est que la privatisation a à la fois permis de diversifier l'offre et de l'étendre. Donc on a une forte progression de la scolarisation primaire, par exemple. Mais on constate aussi, alors au niveau par exemple du genre, on constate une amélioration aussi, mais uniquement dans le primaire. Et là, on voit bien les limites de la privatisation. Parce que les filles, il faut le redire, là j'ai plus beaucoup de temps, mais il faut quand même que ça soit dit, et on en parlera dans un atelier. Cette privatisation a été très défavorable aux filles, puisqu'on a bien voulu les scolariser dans le primaire, mais l'Afrique est le seul continent, voilà, vous avez la preuve ici, dont le taux de scolarisation et les IPS dans l'enseignement secondaire en faveur des filles est le plus défavorable. Quoi. Donc voilà. Alors, je vais conclure parce que je crois que je suis quasiment à la fin, quoi. Je voulais juste conclure sur le droit à l'éducation. Pour rappeler que le droit à l'éducation, si on parle de droit à l'éducation et pas à l'école ou c'est autre chose, ou à la scolarité, c'est en plus. C'est plus important de parler de droit à l'éducation que de droit à l'école. C'est-à-dire qu'il y a, ce qu'a dit beaucoup ce matin, le problème de la qualité de l'éducation, mais il y a aussi... ce que nous, chercheurs, on travaille beaucoup sur ces trois catégories, je pense que c'est important de les redéfinir, c'est ce qu'on appelle les chances formelles. Les chances formelles, c'est uniquement qu'on ne vous refuse pas l'entrée à l'école. Par exemple, vous êtes peul, on va vous dire non, vous n'avez pas le droit. On va vous accepter. Donc ça, c'est les chances formelles, tout le monde a les mêmes chances d'aller à l'école. Ce qui n'est pas le cas pour les écoles privées, puisque vous êtes censé avoir de l'argent, si vous n'en avez pas, voilà. Les chances réelles, c'est vous êtes défavorisé. Vous avez des parents qui sont analphabètes, donc... On vous laisse aller à l'école, mais on ne fait rien pour vous. On considère que vous êtes l'égal du fils de cadre supérieur. Donc, il faut travailler aussi. Le droit à l'éducation, c'est les chances réelles aussi. Et enfin, la réussite scolaire. Et là, on voit bien, quand on voit les évaluations de la qualité des apprentissages, qu'on s'aperçoit que 60% des enfants ne maîtrisent pas les maths, ne maîtrisent pas le français, on voit bien que la réussite scolaire n'est pas au bout. Et ça fait partie aussi de... la qualité de l'éducation, du droit à l'éducation. Quand on dit droit à l'éducation, il ne faut pas se limiter à l'inscription à l'école. Ça, c'est un progrès. On est d'accord, c'est un progrès. La pire des inégalités, c'est de ne pas pouvoir aller à l'école, ce qui est parfois encore le cas aujourd'hui, mais ce qui était il y a 10 ans le cas d'un grand nombre de personnes. Alors, ce que je vais conclure, donc ce qu'on voit, c'est que l'accélération du processus de privatisation de l'éducation, en fait, transforme les inégalités. C'est pour ça que souvent, même les chercheurs qui disent « c'est pas si défavorable la privatisation », c'est parce que les anciennes inégalités, on ne les voit pas. Elles se sont transformées. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait avoir, si je prends des pays que j'ai bien connus où j'ai travaillé, le Mali, à une époque, c'était 30% seulement de scolarisation. On est passé à 50, 60, 70%. Mais... les inégalités se sont déplacées, c'est-à-dire que maintenant, beaucoup d'enfants, un, n'arrivent pas à finir le primaire, et deux, n'arrivent pas à passer dans le secondaire. Donc, en réalité, on est dans les mêmes processus de ségrégation sociale ou ségrégation ethnique ou sexuelle, selon. Et je conclue donc complètement.
Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps tellement...
Juste le point 4 que je vous ai noté là, c'est très important. Hein. C'est la nouvelle stratification des écoles et qui provoque une dégradation de la qualité de l'éducation dans les écoles publiques. Et alors ça accentue donc la fuite des classes moyennes qui n'ont plus de raison de défendre l'école publique. Pourquoi l'école publique n'est plus défendue? C'est parce que même les enseignants ne mettent plus leurs enfants... si l'on faisait qui scolarise à l'école publique, voilà, je veux dire, on n'y aura même pas 10%, quoi. Moi, j'ai l'habitude. Hein. Donc, quand les classes favorisées se désinvestissent, ça, on trouve ça aussi en Europe, en France, c'est exactement la même chose. Les gens qui se disent de gauche, ils vont tous retirer leurs enfants des écoles publiques s'ils habitent en banlieue pour les mettre dans les bonnes... Donc, ça, c'est un gros problème, il faut en être conscient, parce que cette fuite des classes moyennes fait qu'elles ne défendent plus l'école publique puisqu'elles ont leurs écoles privées. Ça, voilà. Et un point important, c'est que les États maintenant sont incapables de contrôler cette explosion d'écoles privées et d'organiser le processus et de le aussi d'impulser les actions nécessaires pour réhabiliter l'école publique. Le seul moyen d'arrêter cette privatisation à outrance, c'est de réhabiliter l'école publique. Or, qui aujourd'hui veut réhabiliter l'école publique, puisque toutes les élites et toutes les classes moyennes, que ce soit en France ou en Afrique ou ailleurs, ont des stratégies d'évitement de l'école publique. Je vais terminer là-dessus. Voilà. Et je m'excuse pour les 5 minutes de plus.
Merci Marie. France.